Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et tu vas nous parler eh bien, du gros succès du box-office.
Oui, Justice League de Zack Snyder et puis du nouveau film de Guillaume Gallienne, Marilyn.
Marine, qui n'est pas là mais qui nous a quand même laissé des traces, nous parlera eh bien, du film Le Brio de Yvan Attal. Quant à moi, eh bien, je ferai un petit rattrapage et vous parlerai du documentaire des bobines et des hommes de Charlotte Push. Je vous parlerai aussi de Flatliners, l'expérience interdite, le remake du film des années 90. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial bien remake. Il faudra bien trouver des titres de films qui sont des remakes. Mais nous allons commencer avec un film allemand de Valeska Griesbach qui était présenté à Cannes. C'est Western dans Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
On va chez moi au fond de garage.
C'est une manière de saluer nos amis germanophones. On n'en a décidément pas fini avec Cannes. Si les films de la compétition sont quasi tous sortis, il nous reste à voir ceux des sélections annexes, comme Un Certain Regard, une sélection qui se veut une alternative aux souvent grosses machines de la compétition officielle et qui permet de voir des films plus confidentiels, parfois radicaux, souvent réalisés par de jeunes réalisateurs avec des acteurs peu connus. C'est dans la compétition Un Certain Regard que des films comme Captain Fantastic de Matt Ross, Snow Therapy, hein, le premier film de Ruben Östlund, le réalisateur suédois qui a reçu la Palme d'Or cette année, ou encore Canine de Yorgos Lanthimos ont été remarqués et primés. Mais brisons le suspense tout de suite, cette année western de Valeska Griesbach n'a pas soulevé l'enthousiasme du jury. Pourtant, il mérite qu'on s'y attarde. Western porte bien son nom, il s'agit de la transposition des codes du western américain au fin fond de la campagne bulgare. Là-bas, un groupe de travailleurs allemands, des mecs, hein, donc, doit s'occuper d'un chantier où rien n'est facile. Alors, conquête de l'Est, pas loin, oui, sauf qu'ici, il n'y a pas à construire de voies de chemin de fer. Ce pays inconnu éveille chez les ouvriers un goût de l'aventure, mais les voilà confrontés à leurs préjugés et à la méfiance, voire la défiance hein, des autochtones, pour qui un Allemand n'est pas loin d'un nazi. Il faut dire que la barrière de la langue n'est pas à s'entendre et personne ne fait d'effort au premier abord. Mais des liens se tissent, hein, ils sont le résultat de la curiosité, de la ténacité, de la bonté d'un de ses ouvriers, un ancien légionnaire du nom de Ménard. Mais dans le même temps où il va rencontrer les villageois bulgares, eh bien cet homme va se mettre en opposition avec son camp.
Ménard.
D'une certaine manière, avec ce western, les Allemands sont les cow-boys, et ils n'hésitent d'ailleurs pas à planter un drapeau allemand dans leur campement. Les Indiens sont bien sûr les Bulgares. On a aussi notre héros qui se range du côté de la justice et le méchant qui préfère la violence. Avec ça, la réalisatrice allemande a ajouté les femmes célibataires, d'autres chahutées, de l'alcool, un bal, de la bagarre, des bons, des méchants et des innocents de chaque côté. On y est, mais à un rythme qui n'a plus rien à voir avec le western américain qui a fasciné la réalisatrice durant son enfance. Ce qui l'intéresse ici, c'est bien de représenter la mythologie américaine dans un espace qui n'est pas le sien. Nous sommes là dans un film qui prend son temps pour installer les personnages et instaurer un suspense. Alors malgré son rythme lent en organisant ses oppositions, la Grande Allemagne face à la petite Bulgarie, l'honnête homme opposé aux mafieux, l'individu face au groupe, le héros confronté à la violence, Western offre une tension. La Bulgarie n'a bien sûr rien à voir avec les grandes plaines américaines, hein, mais Valeska Griesbach se plaît à filmer cette campagne un peu pelée en développant un souci du cadre. Le scénario aux apparences simples, la rencontre de deux communautés, est déployé par une mise en scène tendue, voire un peu aride, où le cadre est privilégié, mais toujours au service des situations qui se répètent, car la tentative d'un dialogue prend du temps. Le personnage principal porte l'essentiel des séquences. Hein. Ce héros ambigu est un Allemand de l'Est, un quinquagénaire au regard doux, à la moustache déployée, au verbe modeste débordant de mélancolie, à la bonté étonnante, animé du dégoût de la violence, mais pas assez habile pour l'éloigner tout à fait de lui. Western pourrait être une fable humaniste sur la difficulté de se rencontrer et des moyens d'y parvenir dans une Europe contemporaine. Alors si vous aimez les westerns traditionnels, vous n'y trouverez pas votre compte, mais vous pourrez au moins vous amuser à voir comment la réalisatrice a transposé ce mythe. Et puis il y a vraiment l'image de la masculinité, hein, parce que c'est vraiment beaucoup d'hommes, et les corps sont tout aussi importants que les attitudes et la langue. Il y a un vrai souci de ce point de vue-là, donc pour Western, en salle depuis le 22 novembre.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Il y a un étranger venu des mers qui visite ce village. L'hiver, quand les gens ont faim pour apporter du poisson, il arrive avec la grande marée. C'est-à-dire hier soir.
Parle.
J'ai la conviction qu'un ennemi va venir d'une lointaine contrée. Je cherche des guerriers. Cet étranger et ses semblables. Je monte une alliance pour nous défendre. Alors il faut que je le rencontre, c'est très important. Barry Allen, Bruce Wayne.
T'existes, j'aurais pas cru.
J'existe quand je suis utile.
On avait laissé Zack Snyder s'emmêler les pinceaux, ou plutôt les caméras, avec le catastrophique Batman vs Superman, summum d'imbécibilité narrative et de prétention visuelle, en se disant qu'il ne pourrait pas faire pire. Alors rappelez-vous, l'hallucinante séquence de réconciliation lorsque les deux clowns déguisés en pleine baston apprennent que leurs mères respectives possèdent le même prénom. C'était un grand souvenir d'il y a à peu près 2 ans. Alors pourtant, je n'ai rien contre Snyder, un réalisateur mal aimé, en partie à cause de ses positions pro-NRA, mais The Watchmen est une brillante adaptation de la BD culte d'Alan Moore, et Sucker Punch, malgré tout, est une vertigineuse plongée dans la psyché d'une ado perturbée sur fond d'imagerie pop et de références aux jeux vidéo. Alors voir ce cinéaste signer et persister au sein de l'univers de ses comics continue malgré tout à inquiéter. Alors donc on retrouve nos héros là où ils se sont arrêtés précédemment. Superman est mort, enfin pas besoin d'être un inconditionnel de comics pour se douter qu'il s'agit d'un leurre. Batman, après sa croisade fascisante, a retrouvé foi en l'humanité et il est rentré dans le droit chemin en servant comme il faut la justice. Donc Bruce Wayne a pris pour modèle son mentor, l'altruiste Superman, le super-héros premier de la classe, qu'on a quand même parfois envie de baffer. Alors il va s'associer avec Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash pour affronter le redoutable et très moche Steppenwolf, super vilain qui veut mettre fin à l'humanité en détruisant tout. Et là, on commence à se dire qu'il faudra arrêter de nous prendre pour des neuneux atrophiés du cerveau, car pondre un scénario aussi anémique relève du mépris pour un public qui, malgré sa patience, commence à se lasser des exploits lassants des super-héros. Alors Justice League marque l'apothéose d'une hybridation d'un univers décadent qui ne sait pas plus trop où se positionner entre ambiance pontifiante à la Christopher Nolan et esprit potage de certains Marvel comme Thor ou les Gardiens de la Galaxie. Alors, à la production, on retrouve d'ailleurs Josh Whedon, le réalisateur du premier The Avenger, qui tente d'alléger un peu l'univers sombre de Justice League en insufflant une bonne dose d'humour, pas toujours du meilleur goût cela dit. Mais du coup, pendant une heure, le film se laisse à peu près voir. Alors non pour ce qu'il raconte, vu la crétinerie d'une histoire qui ne ferait même pas vibrer un gosse de 10 ans, mais pour ce qu'il montre. Zack Snyder n'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit un auteur, mais lorsqu'il range son discours réac et ses prétentions philosophiques pour geek boutonneux, il se révèle un styliste séduisant. Certes, il ne fait pas dans la dentelle, alliant toujours ralenti accéléré et puis des arrêts sur image sur fond de musique pop. Cependant, il sait enchaîner les plans avec brio, procurer un vertige émotionnel grâce à ses cadrages inspirés et son sens du montage, pas seulement dû à une équipe technique compétente. Il y a chez Snyder, en fait, on va dire, plus de cinéma que dans 90% des productions Marvel. Mais son talent s'effondre dès qu'il commence à voir trop grand, à sombrer dans une emphase plastique desservant un univers qui devrait conserver une certaine humilité. Alors en ce sens, la dernière demi-heure, et là c'est là que c'est vraiment la catastrophe du film, nous plongeant dans un chaos apocalyptique censé être le clou du spectacle, et vraiment là d'une laideur visuelle insensée. Alors les couleurs criardes se confondent à d'horribles décors en fond vert, le tout barbouillé d'effets numériques atroces. Le montage là, à ce moment-là, confond rythme et précipitation au point de larguer définitivement le spectateur, juste assommé par une succession d'images sans cohérence diégétique. Alors j'exagère un peu, mais le résultat est tout de même effrayant. Et tout ce déferlement, on va dire, pyrotechnique pour en arriver à cette conclusion crétine, à peine digne d'une aventure des Pokémon. L'esprit d'équipe, c'est cool, mais Superman est quand même le plus fort, alors que Batman rame au milieu de ses collègues dotés de super pouvoirs. Et Wonder Woman est quand même super bonne. Enfin bref.
Alors... Et... Oui.
Le film, alors juste, hein, parce que le film fut vraiment un échec au box-office. Hein, je dirais Zack Snyder est évincé des prochaines adaptations des comics, ce qui est plutôt un point positif pour tout le monde, hein, y compris pour le cinéaste, qui devrait penser à se refaire une santé en réalisant, je ne sais pas moi, un petit film d'horreur produit par Blumhouse, par exemple.
Alors tu parles sans doute du box-office américain, parce qu'en France, il y a eu plus de 1000 spectateurs par copie, rien que pour la première semaine, donc ça fait plus de 700 000 spectateurs. Voilà, pour une première semaine d'exploitation, ce qui est beaucoup. Alors, on a beau en dire du mal, mais...
Oui, non, mais bon, il y a un matraquage. Le film arrive en force quand même. Oui. Mais il n'a pas très bien marché aux États-Unis. Et c'est un bon indicateur pour, ne pas garder le réalisateur.
Alors, sans doute que le brio n'atteindra pas cette somme de spectateurs, mais nous allons en parler maintenant.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard.
Mais ça va, je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là?
Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique.
Typique.
Nela Salah, interprétée par Camélia Jordana, qui devient décidément de plus en plus douée à chacun de ses films, est née à Créteil mais rêve de devenir avocate. Pour cela, elle intègre la prestigieuse université d'Assas, pas vraiment connue pour sa mixité sociale, et son premier jour de cours donne le ton. Son professeur Pierre Mazard la prend en grippe et se permet des réflexions plus que douteuses sur ses origines. La scène est filmée et la direction de l'université demande au professeur de se racheter une conduite en coachant Nela pour le concours d'éloquence qui a lieu chaque année.
Typique de quoi exactement?
C'est du racisme, vous n'avez pas le droit.
T'as complètement pété les plombs, Pierre.
Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline.
C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne?
Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence.
Eh mais moi je veux rien du tout de vous.
Mon salut est entre les mains de Nela Salah.
Va mourir.
Alors certes, l'argument est quelque peu factice et le scénario sera tout naturellement cousu de fil blanc, reprenant sans grande inventivité le postulat traditionnel de la rencontre entre deux personnes que tout oppose, qui vont devoir faire équipe et qui finalement apprendront à dépasser leurs préjugés, voire même à s'apprécier. On se souvient dans le même registre de Tour de France qui confrontait Gérard Depardieu au rappeur Sadek et qui était une purge totale, le brio, sans pour autant s'en sortir brillamment, évite les écueils de l'ultra-démagogie. La raison, ce qui rapproche les deux personnages, ce qui les lie, c'est l'apprentissage de l'art de la rhétorique. Et c'est tout simplement passionnant, car cela donne lieu à des dialogues plus que savoureux, enlevés et intelligents. Pour former son élève à l'art de l'argumentation, qui lui permettra d'affronter ensuite les meilleurs orateurs, le professeur s'appuie sur les célèbres méthodes de Schopenhauer, naturellement réécrites et remis au goût du jour, et le spectateur en profite eh bien, pour s'offrir un petit cours de vulgarisation de la rhétorique. D'après le professeur, qu'importe la vérité pourvu que l'on ait raison, ainsi les joutes verbales auxquelles se livrent les protagonistes sont réellement passionnantes et amenées comme de véritables duels qui nécessitent de laisser de côté ses convictions pour avoir la meilleure argumentation possible.
L'art de bien dire, convaincre, avoir raison. La vérité, on s'en fout.
Ouais, c'est bien ça.
L'ultime stratagème. L'insulte. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel en l'attaquant grossièrement, en l'insultant. On y va.
Mais ça veut dire que...
Oui, ça veut dire que... Allez-y.
Vous êtes sûr?
Attaquez-moi. Attaquez-moi personnellement.
T'as un gros nez. J'en peux plus que tu me parles à ça de la gueule. On dirait que t'as un renard crevé derrière les amygdales. Tes cours, tes petits polycopiés et tes crayons halal. C'est pas dans la bouche que tu vas te les mettre.
Bon, ça va.
Le brio est en cela un excellent complément au documentaire à voix haute que j'avais chroniqué il y a quelques mois et qui retraçait la préparation de plusieurs jeunes du 93 à un concours d'éloquence. Alors c'est la première fois que Yvan Attal, dont c'est le 5e film, renonce à jouer. Et c'est peut-être pas plus mal car finalement eh bien, le casting est tout aussi excellent. Daniel Auteuil est pour une fois vraiment à contre-emploi dans son rôle de professeur misanthrope, misogyne et raciste. C'est une excellente composition pour celui qui commençait un peu à se perdre dans des productions bas de gamme, voire des comédies indignes de son talent. Et puis Camélia Jordana s'infirme vraiment avec ce premier grand rôle grâce auquel elle démontre l'étendue de son talent de comédienne. Sa présence à l'écran est vraiment un plaisir de chaque instant et elle est en grande partie responsable du charme du film qui n'évite pas quelques facilités, c'est vrai, mais qui reste extrêmement plaisant.
Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. I wanna
dream. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Comme ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation.
Voilà, donc c'est Daniel Auteuil, Camélia Jordana, pour qui Marine a un faible, ça, on le sait. Et c'est dans les salles depuis le 22 novembre. C'est pas le cas de Marilyn dont tu vas nous parler maintenant.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Ça s'en passera aisément.
J'annonce la couleur. Hein. Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour parler du nouveau long métrage de Guillaume Gallienne en tant que réalisateur. Car je dois avouer que je n'avais pas vraiment apprécié son multi-césarisé. Hein. Je crois qu'il en a eu 4 ou 5. Guillaume et les garçons à table, comédie que je ne trouvais pas drôle et avec un propos douteux. Bref, ceci est une autre histoire. Mais ce n'est pas Marilyn qui va me réconcilier avec le comédien metteur en scène révélé au départ par le théâtre. Ceci étant dit, le sujet, bien que très classique, est assez attrayant et pouvait laisser espérer un beau mélo à l'ancienne. C'est donc l'histoire de Marilyn, une jeune femme qui a grandi dans un petit village au cœur de la France profonde. Alors juste un aparté avant de continuer, hein, il est rare de voir au cinéma une telle détestation de ce qu'on voudrait filmer. C'est-à-dire, Gallienne a une sainte horreur de la France rurale et de la campagne, au point de faire passer, j'irais même les Deschiens, pour un modèle d'humanisme. Mmh. Alors, le moindre bout de verdure doit lui filer un urticaire, une urticaire. Ah non, c'est assez effrayant, quoi. Les 10 premières minutes sont cauchemardesques, vraiment. Bref. Alors, je continue. Hein. À 20 ans, elle décide de quitter la campagne pour aller tenter sa chance à Paris et devenir comédienne. Mais rapidement, elle va se retrouver confrontée à l'univers impitoyable du métier, avec ses horribles cinéastes, enfin un surtout, pour qui l'humiliation deviendrait presque une profession de foi. La pauvre Marilyn vit ses premières expériences comme un échec cinglant et elle va se mettre à boire et à sombrer dans une dépression chronique. Heureusement, elle va aussi rencontrer des personnes bienveillantes qui vont l'aider à réussir.
Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?
Marilyn.
Et vous venez d'où, Marilyn ?
D'un petit village.
Ça doit pas avoir une vie très drôle.
Ah, j'imagine, du Zola, père alcoolique, mère boiteuse.
T'es pas loin, son père s'est pendu.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Vous avez une présence magnifique.
Alors, Gallienne n'y va pas par quatre chemins. Hein. Ils foncent tête baissée dans tous les clichés possibles. Mais pourquoi pas au fond, hein. Je dirais que c'est un peu la loi d'un genre, le mélo, souvent mal aimé, mais qui a donné régulièrement des chefs-d'œuvre. Hein. Le premier écueil de Marilyn tient au personnage de la jeune femme qui est passive tout au long du film. Elle n'a d'emprise sur rien, ne provoque rien. Du coup, on ne comprend même pas pourquoi des metteurs en scène lui offrent des rôles comme ça d'un coup de baguette magique. Alors, cet état léthargique empêche toute adhésion. On ne ressent pas la douleur du personnage. On est rarement ému. Juste mal à l'aise de voir une pauvre fille se faire insulter sans qu'elle ne réponde rien. Cet aspect pathétique du film est sans doute volontaire de la part de Gallienne, hein, mais du coup, le personnage intéresse peu. On est très loin de Cassavetes ou Fassbinder, hein, références évidentes, mais qui ne sont jamais à l'avantage de ce mélodrame sans relief, terne et mal construit. Alors, comme dans Guillaume et les garçons à table, hein, Gallienne ne sait pas agencer une intrigue cohérente. Il met bout à bout une suite de scénettes allant, on va dire, de l'amusant au mieux, et rarement, à l'exécrable. Gallienne n'est pas très tendre d'ailleurs avec l'univers du cinéma, hein, qu'il considère comme moins noble que celui du théâtre. Alors, c'est son droit le plus strict, hein, mais pour illustrer un tel propos, il aurait été moins putassier d'éviter de présenter un réalisateur, on va dire anglais, insupportable, une sorte de caricature de pervers narcissique qui se prend pour un artiste, ou d'exhiber la médiocrité des films dans le film. Alors, Gallienne a un problème avec le cinéma, mais je dirais que le cinéma a un problème avec lui aussi, car il est un peu absent à l'écran. Alors, l'hommage au théâtre s'embourbe aussi dans un discours d'une grande platitude. Hein. La pièce sur le racisme dans laquelle joue Marilyn est affligeante au point que l'on se demande si tout cela est à prendre au sérieux. La séquence qui devrait être bouleversante où le théâtre s'invite au cœur du cinéma dans une mise en abîme artificielle est une faute de goût intégrale. Non seulement le spectateur, ayant vu, on va dire, 3 films dans sa vie, remarque toutes les ficelles à l'œuvre, mais en plus, ce faux morceau de bravoure joue sur une dichotomie, on va dire, réalité-fiction, désuète et embarrassante, avant de nous délivrer un happy end sirupeux. Or, une des règles d'or, à mon avis, des grands mélos, c'est justement d'éviter les fins à l'eau de rose. Sinon, ça s'appelle une rom-com ou un navet. Enfin, ça, c'est au choix. Alors, au milieu de ce désastre, hein, Gallienne réussit néanmoins, on va dire, 2-3 moments de grâce. Hein, la présence de Vanessa Paradis est patente dans un petit rôle hommage, on va dire, à Jeanne Moreau, qui va remonter le moral de Marilyn. La rencontre aussi très nouvelle vague entre un metteur en scène de théâtre un peu perché et l'actrice, et puis une fuite comme ça dans un Paris nocturne. Alors deux instants de fraîcheur dilués dans une œuvre qui brille par l'absence de mise en scène. Alors néanmoins, bah voilà, la jeune Adeline Dermide dans un rôle ingrat et pas très bien cerné. Elle est formidable. C'est elle qui interprète donc Marilyn. Hein. Elle a un visage caméléon assez singulier, parvenant d'un plan à l'autre de paraître jolie, puis laide, jeune, puis plus âgée. Elle est apparue dans Yves Saint-Laurent et Camille Redouble. Là, elle crève l'écran. Hein. Dommage, je dirais, que le film soit si mauvais.
Eh bien, merci Manu. Et c'est pas mieux hein, pour l'expérience interdite. Film de Nils Arden Oplev, dont on va parler maintenant. Mais ça va nous donner l'occasion de jouer au Blind Test spécial remake.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Et si on pouvait témoigner de ce qui se passe après la mort ?
Qu'est-ce que tu racontes ?
Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses une minute et ensuite tu me ramènes.
Alors, remake ou pas remake, la question se pose parfois quand des productions se permettent de ternir l'image de certains films qui ont pourtant passé les épreuves du temps. Tourné en 90 avec Julia Roberts, Kevin Bacon et Donald Sutherland, L'expérience interdite de Joel Schumacher est un film apprécié par certains et ignoré par d'autres. Alors, s'il peut encore émerger dans l'esprit des quarantenaires et cinquantenaires qui étaient le cœur de cible à l'époque, il y a peu de chances que son remake suive le même chemin. On ne va d'ailleurs pas faire long sur le sujet. L'idée était vraisemblablement de faire une mise à jour du film d'origine en plaçant de nouvelles têtes, une nouvelle intrigue, du nouveau matériel médical, toujours aussi blanc mais plus perfectionné. Et le scénario a peu varié. Des étudiants en médecine veulent savoir ce qu'il y a après la mort, étant donc l'expérience, sachant qu'ils ont les moyens de ranimer les corps, même si le voyage-retour n'est pas assuré. Alors, ils ne font pas ça seulement pour l'expérience, mais pour marquer leur carrière, ne souhaitant pas rester en fait des médecins de campagne.
On dirait que son cerveau a été reprogrammé.
Je veux être le prochain.
Je suis la prochaine. 3 minutes. Jenny en a fait que 2. On a l'esprit de compétition.
C'est un bon jour pour mourir.
Aide-moi.
Il faut arrêter immédiatement cette expérience. Je pensais pas que les effets secondaires allaient apparaître et nous traquer.
On a presque tout dit. 4 personnages vont faire le saut et en revenir changés. Alors si d'emblée le passage à trépas apporte un coup de fouet aux capacités cognitives, très vite l'expérience va devenir handicapante pour les personnages qui, à des degrés plus ou moins élevés, ont fait du mal à autrui. Quelle horreur ! La mise en scène n'en fait pas mystère. Plus on fait du mal dans le passé, plus on doit souffrir et plus le chemin sera long pour en guérir. La culpabilité est le moteur du scénario et les hallucinations d'un passé jamais résolu, le gimmick un peu léger d'un film qui navigue entre thriller et film de frousse. Mais ses moyens sont souvent les mêmes, la nuit, la solitude, une musique inquiétante, des visions traumatisantes et un saupoudrage de jumpscare pour réveiller le spectateur. Le questionnement sur l'au-delà de la vie ne va pas bien loin. Après la première expérience, les 3 expressions de visage, notamment des 2 actrices, Ellen Page et Nina Dobrev, en disent long sur la platitude de l'expérience. On notera qu'à un moment, ces élèves d'une des plus prestigieuses académies de médecine ont du mal à situer l'hippocampe. Alors culpabilité, insouciance de la jeunesse, rédemption, les bons sentiments pullulent et accouchent dans la douleur grâce au seul élève médecin qui ne veut pas franchir le pas, interprété par Diego Luna. L'acteur mexicain avait peut-être mieux à faire, tout comme le réalisateur danois Niels Arden Oplev, qui était aux manettes de la trilogie Millennium, version suédoise. Sûrement a-t-il voulu se venger du remake fait par David Fincher en s'attaquant lui aussi à un autre remake. Et donc, c'est l'occasion, non pas de vous conseiller d'aller voir L'expérience interdite, le nouveau remake,
mais l'original de Schumacher était un peu pareil. C'était aussi une grosse bondieuserie, un peu étouffe chrétien, très culpabilisateur.
Oui, mais qui avait réussi au moins à marquer un peu les esprits. Celui-ci, en tout cas, je ne pense pas. Donc, c'est l'occasion de jouer un blind test spécial remake. Le principe est simple, on écoute des extraits, il faut en trouver le titre et vous pouvez jouer chez vous. Premier extrait.
Quels sont tes desseins, mon frère ?
Semer la terreur chez les mortels. Ils se remettront à prier et tu baigneras dans des flots de dévotion nés de leur peur. Alors, nous retrouverons notre puissance.
Sa place est dans le royaume des enfers, non dans celui-ci.
Tu n'as pas à me dire où est ma place. Pour toi, seul l'amour alimente les dieux. Mais tu es esclave de celui des hommes. Moi, je n'ai appris à me nourrir que de leur souffrance, de leur peur.
Zeus. Notre frère parle vrai. Entends-le.
Alors, c'est trouvé, Manu.
Alors, c'est le choc des titans. Je crois que c'est Louis Leterrier qui a fait ça.
En 2010, et c'est un remake d'un film homonyme. De 80. Deuxième extrait.
Quelqu'un l'a tué. Quelqu'un présent sur l'île ce jour-là. Une personne assez proche pour savoir ce qu'elle avait l'habitude de m'offrir tous les ans pour mon anniversaire. Elle m'a offert cela. Et les autres m'ont été envoyés par son assassin.
Alors, c'est une manière de contextualiser l'expérience interdite, pour le coup, parce que c'est Millennium.
Les
hommes qui n'aimaient pas les femmes, de David Fincher.
Non, je ne serais pas rappelé.
Film de 2012, et qui est donc le remake d'un film de 2009 seulement, mais donc un film suédois. Et qui a été donc mis en scène par Niels Arden Oplev, qui a fait l'expérience interdite. Troisième extrait.
On est où exactement ?
Ça, c'est un ballast.
On remplit les ballastes d'eau pour que le bateau soit stable. Cette vanne donne sur le ballast d'à côté. C'est donc peut-être notre porte de sortie.
Pourquoi peut-être ? Il y a un autre moyen de sortir.
C'est une vanne à soupape. Elle ne peut s'ouvrir que sous l'effet d'une énorme pression. Ne me dites pas qu'on est pris au piège ? Non, non, elle peut s'ouvrir.
Comment ?
Eh ben, en noyant ce réservoir.
Oh, mon Dieu. Vont-ils le faire ?
Mais non, je ne sais pas.
Pas trouvé ? Ah. Alors c'est
un indice.
Un indice, c'est un bateau qui se renverse.
Oui, non, mais le Titanic, mais c'est pas ça. Oui.
Non, c'est Poséidon.
C'est Poséidon. Ah oui, c'est vrai.
Donc de Wolfgang Petersen ouais. en 2006, qui est le remake de l'aventure du Poséidon de 72, quatrième extrait.
Quoi ?
Niskov me doit de l'argent.
Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre ?
Les deux grands singes qui sont avec lui, sont toujours avec lui ?
Je vous connais pas, j'attends de vous parler.
Mais oh, je vous pose une question, vous pouvez me.
Tu me touches pas. Ok.
Je veux juste un rendez-vous avec Minskov.
Tu sais quoi, tu commences à me saouler. Minskov, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, tu vas rire. Il suffit que je l'appelle. Et t'es mort.
Ah, j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu restes avec lui, c'est pour pouvoir dire des trucs comme « Je l'appelle, t'es mort
ouais. ».
C'est ça, ça te fait kiffer de dire des trucs comme ça.
Mm-hmm.
Ouais, je comprends, mais c'est pas plutôt le contraire, non ? T'as les boules, t'es morte de trouille, t'es terrorisée. Mm. Regarde, tu trembles, t'as la chair de poule.
Ouais.
T'oses même plus respirer sans lui demander la permission.
Hein? T'as fini ? Allez, tu vas te faire foutre.
Ça se passe devant des WC. C'est Mélanie Laurent qui a un petit rôle dans ce film et qui le tient bien. Et c'était Romain Duris, effectivement. De Battre mon cœur s'est arrêté.
Ah oui, c'est un remake d'un film de James Toback avec
Henri
Kettel.
Mélodie pour un tueur. Film de 78. Tu as la moitié. Allez, on t'accorde. Dernier extrait.
Nous faisons une musique religieuse, pour ainsi dire.
Du gospel ?
Disons, inspiré par le gospel, sans aucun doute. Les pièces les plus récentes remontent au rococo.
Au rococo ? Bon, ça devrait aller.
Mais il n'est évidemment pas question de vous infliger nos répétitions quotidiennes. Oserais-je une question ? Est-ce que vous auriez une cave ? Oh.
Alors, il y a une cave et ça attire la convoitise d'un visiteur qui prépare un coup, en fait.
Sèche.
Alors, c'est la voix de Tom Hanks, la voix française de Tom Hanks.
Ah, c'est peut-être Lady Killer des frères Cohen.
Des frères Cohen.
D'après le film d'Alexandre McKendrick.
Mais encore la moitié des points, finalement, parce que tu arrives à trouver le film.
C'est que j'arrive pas
original.
Avec les versions françaises, parfois, à retrouver les films, en fait.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial remake.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on va faire un petit rattrapage. C'est un film qui est dans les salles depuis déjà fin octobre, mais c'est un documentaire. Un documentaire sur l'usine Belmaille. Alors, ce n'est pas le premier film documentaire sur une usine qui s'en va. Dans Rêve d'usine, on suivait les salariés d'Epeda. Dans la saga des Conti, on suivait la lutte des ouvriers de l'usine de pneus de Continental. Dans 300 jours de colère, c'était les ouvriers et ouvrières de Mosley à LM dans le Nord qui cherchaient à obtenir un plan social acceptable. Encore le textile, mais direction Roanne, cette fois-ci dans la Loire, pour des bobines et des hommes de Charlotte Pouche qui suit les ouvriers de Belmaille confrontés au redressement judiciaire de leur entreprise durant l'été 2014. Alors, point commun de tous ces documentaires, le réalisateur se place du côté des ouvriers, un parti pris plus commode que de suivre le patron qui, dans bien des cas, a sa petite idée sur l'issue de la liquidation judiciaire. Ici, eh bien, c'est un patron qui balance un refrain qui revient comme une litanie. Ma priorité est d'assurer la pérennité du savoir-faire Belmaille dans son ancrage local. C'est typiquement ce qu'on raconte dans un dossier de financement ou à la presse. Et évidemment, ce patron n'a rien fait depuis longtemps et se cache derrière ses formules creuses. Alors, si la caméra et le montage de Charlotte Pouche ne laissent pas de côté ce patron lorsqu'il parle à son personnel, l'essentiel du documentaire se tourne vers les petites mains de la filature, une usine Belmaille majoritairement composée d'hommes.
Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appris que chaque système, c'était une grand-mère qui fait du tricot. On va régler le métier, il va y avoir 90 grand-mères qui travaillent.
Il n'y a pas de femmes.
Non.
Il n'y a que des hommes.
Ouais, ça n'a pas l'air, mais c'est physique.
Moi, ça fait 35 ans que je suis là. 35 ans dans le textile, à tricoter.
On arrive à séquestrer des directeurs, parce que quand t'as affaire à des gens comme ça...
Voyou ! Elisa.
Alors le documentaire est sec, hein, 1h07, et n'a pas le temps de s'enliser. Charlotte Pouche suit les hommes et quelques femmes qui vont sans doute perdre leur travail. Elle est la confidente de leur angoisse, leur rancœur, leur regret de voir un pan entier de leur vie dans cette usine s'arrêter pour ce qu'ils appellent de l'incompétence ou de la mauvaise gestion. La réalisatrice n'hésite pas d'ailleurs à faire entendre sa voix, ne laissant aucun doute sur le parti pris. Il y a quelque chose de mélancolique qui ressort de la vision des bobines et des hommes. Il s'agit d'un nouveau témoignage sur une industrie textile moribonde, mais aussi le reflet d'une époque où certains patrons n'hésitent pas à siphonner les entreprises qu'ils rachètent au mépris des hommes et femmes qui fournissent la force de travail. Voilà de vieilles conceptions marxistes encore à l'œuvre dans ce plaisant et instructif documentaire. Le récit de cette liquidation de l'outil de travail est entrecoupé d'extraits de la comédie romantique et sociale La fille du patron d'Olivier Lousteau, sortie en 2016, qui a été tournée en fait dans cet atelier de filature. Voilà, des bobines et des hommes, c'est encore en salle et ça va continuer à tourner parce que c'est forcément un film qui est accompagné par, sa réalisatrice un peu partout en France.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est qui, qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous n'aurons pas Marine qui va prendre une petite pause, mais tu seras avec nous.
Oui, avec Thelma de Joachim Trier et puis La éducation d'El Rey.
Et moi, je vous parlerai de La lune de Jupiter, notamment, film de Cornel Mundruxo, qui était à Cannes.